l'heure des enjeux internationaux. Bonjour Julie Gacon.
Bonjour Baptiste, bonjour à tous.
Ce matin Julie, en Amazonie brésilienne, les recherches continuent pour retrouver deux hommes disparus dimanche, deux hommes qui enquêtaient sur tous les trafics autour du fleuve.
Oui, le journaliste britannique Dom Phillips, collaborateur régulier du Guardian, et le spécialiste des peuples autochtones Bruno Pereira avaient fait une halte ce jour-là sur la rivière Itacoaí pour rencontrer le chef de la communauté indigène de São Rafael. C'est sa femme qui les a reçus, leur a donné un peu de café et de pain. Et son mari n'arrivant pas, les deux hommes ont décidé de reprendre le bateau pour rentrer. On ne les a jamais revus. Des sources locales spéculent sur une embuscade, Dom Phillips et Bruno Pereira ayant apparemment croisé quelques jours plus tôt un bateau avec un moteur trop puissant pour manœuvrer sur ce fleuve. Donc sans doute le bateau de trafiquants qui n'ont aucun intérêt à ce que leurs activités soient documentées par qui que ce soit. Bonjour François-Michel Le Tourneau.
Bonjour.
Merci beaucoup d'être avec nous ce matin. Vous êtes géographe et directeur de recherche au CNRS. Qu'est-ce qu'on peut dire de cette vallée du Javari où ont disparu donc ces deux hommes, le journaliste Dom Phillips et son acolyte Bruno Araújo Pereira, qui sont sur ce territoire, ceux qui pourraient avoir eu intérêt à faire disparaître leurs traces?
Alors bon, d'abord, il s'agit d'une région d'Amazonie extrêmement isolée qui se situe à la frontière entre le Pérou et le Brésil. Et la rivière Javari, qui est déjà un énorme cours d'eau, serpente à l'intérieur d'une grande région qui est une très vaste réserve amérindienne qui fait plus de 80 000 km², donc c'est déjà un sixième de la France, donc c'est beaucoup. Et cette région isolée recèle un certain nombre de ressources, donc des gisements d'or, des bois précieux, et elle est aussi un couloir de passage pour les trafiquants de drogue du Pérou et également de la Colombie, puisqu'on n'est pas très loin de la trifrontière entre le Brésil, la Colombie et le Pérou. Voilà. Et donc c'est une région difficile d'accès, mal contrôlée par le gouvernement brésilien et qui est l'enjeu d'un certain nombre de trafics.
Donc on ne sait pas si la disparition des deux hommes est liée à leur paillage, au trafic de bois, au trafic de drogue, mais en quoi les défenseurs de l'environnement et de l'Amazonie peuvent gêner dans leurs activités les orpailleurs, les trafiquants en tout genre? Quel effet de ces trafics sur la biodiversité, voire sur le climat? Parce que de façon très spontanée, dans un premier temps, on peut se dire que ces exploitants profitent de la densité de la forêt amazonienne pour leurs activités.
Oui, alors, mais comment dire, à la fois, ils gênent objectivement les trafiquants puisqu'ils cherchent à mettre un terme à leurs activités et par ailleurs, ils attirent l'attention des autorités éventuellement et du monde sur leur présence dans des territoires où ils ne devraient pas être. Après, ce qui est évident, c'est que les activités dont on parle ont des conséquences importantes sur l'environnement. C'est donc de la déforestation, donc des hectares ou des kilomètres carrés de forêt qui sont perdus. C'est de la pollution environnementale, par exemple, dans le cas de l'orpaillage avec le mercure. Et c'est également la mise en danger des populations autochtones qui vivent encore dans ces territoires, mais qui de plus en plus sont sous la coupe de ces gangs de trafiquants. Et ce qui est un petit peu spécifique à cette zone, même si on commence à le voir dans d'autres régions d'Amazonie, c'est que les gangs qui au départ étaient plus centrés sur le trafic de drogue par exemple, donc ils se contentaient entre guillemets de faire passer leurs marchandises à travers ces territoires en profitant du fait qu'ils étaient mal contrôlés, aujourd'hui tendent à se diversifier dans une espèce de modèle capitaliste de cartel où on multiplie les activités, et donc ce sont les mêmes qui étaient trafiquants de drogue qui commencent à investir dans leur page illégale, qui commencent à investir dans le trafic de bois pour créer plus de profits en diversifiant leurs produits, et de cette manière-là, bien évidemment, ils se choquent encore plus avec les défenseurs de l'environnement.
Et est-ce qu'il arrive très souvent dans cette région-là en particulier que des défenseurs de l'environnement ou des peuples autochtones soit menacés, enlevés, voire assassinés dans cette région-là?
Alors, ça arrive dans cette région-là. Il y a un employé de la FUNAI qui est mort il y a 2 ou 3 ans, qui a été assassiné pour des raisons probablement similaires, s'il s'avère que la situation actuelle ressort de la même qualification d'homicide. Et par ailleurs, de toute manière, d'une manière générale, le Brésil est l'un des pays, voire le pays au monde, le plus dangereux pour les défenseurs de l'environnement, des populations traditionnelles et des populations autochtones. Donc, les conflits autour de cette question, à savoir faut-il préserver préserver l'environnement ou faut-il laisser le champ libre à ceux qui veulent l'exploiter à outrance, est un conflit qui se marque très très fortement au Brésil, avec vraiment une opposition entre les deux camps qui est très forte et qui tourne le plus souvent d'ailleurs au détriment des défenseurs de l'environnement, qui sont en général non violents, alors qu'ils ont en face d'eux des gens qui n'hésitent pas du tout à recourir à la menace, l'intimidation, voire à l'homicide.
Et avec le recul, est-ce qu'on peut dire, François-Michel Letourneau, que les autorités brésiliennes finissent par s'en préoccuper, ne serait-ce que la police, la justice? Est-ce que certains ont déjà été jugés pour des kidnappings, des assassinats d'activistes indigènes ou de militants pour la protection de l'Amazonie, jugés ou ne serait-ce que poursuivis?
Alors, il y a eu des cas célèbres, donc par exemple les assassins de Chico Mendes il y a longtemps, les assassins de la missionnaire américaine Dorothy Stang ont été aussi pris, donc voilà. Donc la justice brésilienne finit finit par se mettre en branle et éventuellement par enquêter. Mais encore faut-il qu'il y ait une attention forte qui la pousse à le faire. Donc dans certains cas symboliques, c'est le cas. Dans d'autres cas, effectivement, quand les affaires n'attirent pas autant l'attention, notamment sur le plan international, elle est un petit peu moins diligente. La police aussi l'est un petit peu moins. Et on peut craindre que justement, instruit par ces précédents où les gens avaient laissé trop de traces, les personnes qui s'en seraient éventuellement pris aux deux personnes dont on parle là tout de suite, pourraient avoir cherché à ne laisser aucune trace, et dans ce cas-là, il sera bien évidemment très difficile pour la police de remonter à ce qui s'est passé, puisque là encore, on est dans une région extrêmement isolée, donc faire disparaître deux personnes au cœur de la forêt amazonienne, ce n'est pas très difficile.
Alors, d'autant moins diligentes ces autorités brésiliennes que les activités économiques au sein de l'Amazonie, que ce soit le trafic, l'orpaillage ou même tout simplement les activités agricoles qui, pour certaines, endommagent beaucoup cette forêt, eh bien ces activités-là parfois rencontrent les intérêts du gouvernement brésilien. Est-ce que vous pouvez nous parler, François-Michel Letourneau, de ce texte de loi que le gouvernement de Jair Bolsonaro a présenté en pleine guerre en Ukraine, en prétextant de cette guerre en Ukraine, en disant on va manquer notamment d'engrais, il faut absolument aller légaliser l'extraction des ressources naturelles du Brésil et donc principalement en Amazonie?
Oui, alors en fait, depuis son accession au pouvoir, le gouvernement Bolsonaro n'a de cesse de dire que les restrictions environnementales, enfin ce qu'il voit comme des restrictions, ou les lois qui protègent l'environnement au Brésil, sont des freins à la croissance économique de son pays, et donc il veut revenir dessus, tous les prétextes sont bons. Effectivement, dernièrement, il a pris prétexte de la guerre en Ukraine et de cette question des engrais phosphatés, pour propulser sur le devant de la scène et pour demander au Congrès le caractère d'urgence dans l'appréciation d'un projet de loi qui est en cours depuis très longtemps sur la question de l'exploitation des ressources minières dans les territoires amérindiens. Parce qu'en fait, ces territoires amérindiens sont de l'usufruit exclusif des Amérindiens, mais le sous-sol appartient à l'Union fédérale, et depuis 25 ans, enfin plus de 25 ans, depuis 30 ans, la question de savoir comment est-ce que l'Union fédérale peut exploiter ces territoires malgré le fait que les Amérindiens en sont les usufruitiers exclusifs est un sujet qui n'est pas réglé. Voilà, et le gouvernement, bien évidemment, de Jair Bolsonaro, une vision très extensive des droits de l'Union fédérale sur ces ressources du sous-sol est très diminutive du droit des Amérindiens sur la capacité de refuser éventuellement l'exploitation ou sur les royalties qu'ils pourraient toucher au cas où elles seraient décidées. Donc effectivement, il y a tout un contexte au Brésil depuis l'accession au pouvoir de Jair Bolsonaro qui pousse à revenir à en fait ce qui était la politique des gouvernements militaires des années 70, à savoir l'Amazonie est pleine de ressources, nous en avons besoin pour nous développer, donc il faut absolument exploiter tout ça au maximum sans se soucier des conséquences environnementales.
Alors qu'est-ce que c'était ces projets militaires, et notamment quand les généraux avaient pris le pouvoir au Brésil de 64 jusqu'en 85, comment ont-ils fait de l'Amazonie non pas leur précaré mais une sorte de terrain de jeu pour en fait une vraie volonté de combler un vide?
Oui, alors les militaires brésiliens étaient très préoccupés du fait que l'Amazonie était peu peuplée. Ils voyaient ça comme une faiblesse géopolitique et comme éventuellement pouvant amener à un démembrement du Brésil et à la perte de l'Amazonie. Donc ils ont mis en place un programme destiné en principe à peupler l'Amazonie et ce faisant à résoudre le problème de réforme agraire qui se posait dans le reste du pays. Donc l'idée c'était donner la terre sans homme aux hommes sans terre. Bon, mais ça c'était bien évidemment la façade de propagande. Ce qu'il y a eu derrière, c'était une véritable ruée vers les ressources amazoniennes et également vers les incitations fiscales et les bonus fiscaux que le gouvernement offrait à de grandes entreprises pour qu'elles s'installent en Amazonie. Au total, cette politique n'a pas beaucoup servi, puisque quand on regarde la place de l'Amazonie dans l'économie brésilienne, en gros, elle est restée à peu près la même entre les années 70 et aujourd'hui. Donc l'Amazonie est un grand morceau du Brésil, mais un tout petit morceau de l'économie du Brésil. Et ça, ça n'a pas changé.
Donc la transamazonienne, par exemple, cette immense route qui, à l'origine, devait traverser sur 4900 kilomètres le territoire et relier le Brésil à l'océan Pacifique, qui finalement en fait un peu moins, 4200 kilomètres, cette transamazonienne n'a pas atteint son but, qui était de développer les territoires et de les développer notamment socialement.
Alors, elle n'a pas exactement atteint ce but-là. Elle a atteint le but de transformer un certain nombre de territoires. Elle a atteint le but d'implanter une économie de l'élevage bovin dans une partie de l'Amazonie qui ne la connaissait pas jusque-là, ce qui n'est pas forcément une bonne nouvelle sur le plan environnemental. Mais effectivement, elle n'a pas été un grand vecteur de développement économique, même si le développement économique est venu plus après, au sud de l'Amazonie, avec le développement des grandes cultures, notamment du soja. Mais ça, c'est plutôt à la fin des années 1980.
Et aujourd'hui, où en sont les projets d'infrastructure à proprement parler? Je crois que c'était en 2019 qu'on avait appris, qu'était révélé l'existence d'un très grand plan d'ouverture d'exploitation et de peuplement de l'une des régions les plus isolées de l'Amazonie, qui est le Cala Norte. Où ça en est aujourd'hui? Que prévoit-il? Est-ce que c'est toujours d'actualité?
Alors, le gouvernement brésilien a fait beaucoup d'annonces, enfin le gouvernement brésilien actuel, donc de Jair Bolsonaro, a fait beaucoup d'annonces. En même temps, les grands projets amazoniens coûtent souvent beaucoup d'argent, n'en rapportent pas beaucoup, et donc derrière les annonces, il n'y a pas beaucoup de réalité, parce que la réalité économique du Brésil fait que ce n'est pas très raisonnable. Donc ces projets-là ont été, pour la plupart, abandonnés discrètement. Ce qui reste, c'est que, et ça, ça a été la même chose sous le gouvernement de Lula ou sous le gouvernement de Dilma Rousseff, l'Amazonie est toujours vue quand même comme une pourvoyeuse de ressources, et ces ressources peuvent être entre autres l'électricité par exemple, de sources d'origine hydroélectrique, et donc l'Amazonie voit régulièrement de nouveaux projets d'infrastructures, des nouveaux barrages comme le barrage de Belo Monte qui a été inauguré au milieu des années 2010, et ce genre de l'accumulation de ces infrastructures finit par créer des déséquilibres environnementaux qui petit à petit fragilisent la région.
Et puisque vous avez évoqué, François-Michel Letourneau, à la fois Lula, puisque les années Lula et même les années Dilma Rousseff n'ont pas été nécessairement beaucoup plus protectrices de l'Amazonie que les précédents. Le mandat de Jair Bolsonaro est pire encore, et c'est peut-être celui qui aura mis le plus à mal l'Amazonie depuis longtemps. Il se trouve qu'on est en campagne présidentielle. Cette année sera élu un nouveau président du Brésil. Pourquoi le WWF, par exemple, cette ONG qui travaille beaucoup sur la déforestation de l'Amazonie, dit que cette déforestation augmente en année électorale? Dans son tout dernier rapport paru il y a un mois, donc en année électorale, puisque la présidentielle aura lieu en octobre, pour quelles raisons est-ce qu'on peut dire que les années d'élection au Brésil, la déforestation explose?
Alors bon, d'abord, il faut quand même pas mettre tout à fait sur le même plan les années Lula et ce qui s'est passé sous Jair Bolsonaro. Le gouvernement Lula, même s'il a créé des infrastructures en Amazonie, a quand même été aussi à l'origine d'un plan de protection de l'Amazonie qui a divisé la déforestation par 5. Donc voilà, il faut le noter, c'est un résultat important. Et cette déforestation a repris fortement, d'ailleurs avant Bolsonaro, mais principalement sous le gouvernement Bolsonaro. Cela étant, elle est aujourd'hui à un niveau qui est préoccupant, mais qui n'est pas aussi haut que celui du début des années 2000. Alors pourquoi est-ce qu'elle explose en année électorale? Bien parce que en année électorale, les institutions ont un petit peu autre chose à faire que de regarder de près ce que font les grands propriétaires terriens, parce que ce sont des années où il faut organiser le suffrage, et puis les personnes qui ont envie de déforester illégalement peuvent aussi se dire qu'ils peuvent compter sur la mansuétude des gouverneurs ou des maires qui auront envie d'être réélus, et donc ça amène un contexte dans lequel, un petit peu délétère, dans lequel on se dit, bon ben peut-être que mes excès de cette année seront plus pardonnés que les années précédentes, et donc tout le monde rajoute un petit coup de pelleteuse là où il ne devrait pas.
Peut-être pour conclure, François-Michel le Tourneau, aujourd'hui, à quoi ressemble le réseau d'associations qui défendent la protection de l'Amazonie? Est-ce qu'on a une idée de combien de personnes aujourd'hui elles mobilisent au quotidien, de leur répartition et surtout de leurs moyens? S'agit-il seulement, comme essaye de le faire croire peut-être Jair Bolsonaro, d'ONG internationalistes, comme il dit, environnementalistes, uniquement de l'étranger?
Non, alors bon, c'est un reproche que l'extrême droite brésilienne fait aux ONG environnementalistes depuis le début. Il est vrai que la situation en Amazonie interpellant au niveau mondial, il y a un soutien international aux ONG brésiliennes, mais elles sont composées de volontaires brésiliens, de bénévoles brésiliens, et elles comptent aussi sur des financements locaux. Donc ce qui se trouve, c'est que depuis un certain nombre d'années, ces ONG qui, pour certaines, collaboraient à l'action de l'État ou pouvaient obtenir des financements pour être des partenaires dans un certain nombre d'actions de gestion de territoire ou de diagnostic, etc., ne reçoivent plus du tout cet argent-là et donc elles dépendent plus des financements internationaux que ce n'était le cas avant. Mais ce n'est pas une greffe uniquement de l'étranger. Il y a un vrai mouvement environnementaliste et indigéniste, d'ailleurs, comme on dit, en faveur des peuples autochtones, qui est d'origine brésilienne, enraciné au Brésil. Ce mouvement, il est sous une pression extrêmement forte depuis 4 ans parce que le climat est extrêmement délétère et tous les gens qui sont opposés à ces mouvements-là ont le haut du pavé en ce moment au Brésil.
Une partie aussi de l'Église catholique brésilienne soutient les mouvements de défense de l'Amazonie et de ses peuples. Et une autre partie, par ailleurs, s'en désintéresse totalement. Merci beaucoup François-Michel Le Tourneau d'avoir été avec nous ce matin. Je rappelle que vous êtes géographe et directeur de recherche au CNRS.
Merci, les enjeux, c'est fini pour aujourd'hui. On se retrouve demain pour de nouveaux enjeux territoriaux à 6h10 et vos enjeux internationaux, Julie Gacon, à 6h45.
France Culture, l'esprit d'ouverture.